Dans la prochaine demi-heure, on parle Guyane, guerre des étoiles et fusées avec le patron d'Ariane Espace. Mais d'abord, on fait Cocorico. Alors, comment on fait Cocorico en intelligence artificielle? La France brigue la première place dans un secteur en plein essor.
Judith, c'est votre assistant virtuel qui va vous permettre de prendre vos rendez-vous à votre place. Donc ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais en fait c'est comme si vous recrutiez un assistant en chair et en os qui va prendre vos rendez-vous. La seule différence c'est que vous n'allez le contacter que par mail. Julie Desk n'existe que par mail, c'est une adresse mail. Donc imaginez vous envoyez un mail à Julie, vous dites « Bonjour Julie, est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec Milena s'il te plaît ?» Et Julie va envoyer des mails à Milena en lui proposant des disponibilités de mon calendrier et essayant de voir ce qui va pour elle et mettre ça dans mon agenda.
L'intelligence artificielle, c'est le contraire de la bêtise naturelle. Ça, c'est du Woody Allen. Plus sérieusement, ce sont des logiciels qui, comme dans l'extrait que vous venez d'entendre, vous facilitent la vie, peuvent parfois faire peur aussi quelquefois. En tout cas, c'est un secteur en plein développement en France et le pays compte bien prendre une bonne place dans la course. Le gouvernement vient de se faire remettre un rapport complet avec plein de préconisations. Un comité doit être nommé cette année pour les faire appliquer. Qu'en sera-t-il après la présidentielle? On verra. En attendant, revue des atouts et des faiblesses de notre pays en la matière avec le reportage de Milena Payon.
Julien Becca, président et cofondateur de Julie Desk. Alors on est dans nos locaux à Paris, boulevard Strasbourg-Saint-Denis, on a 130 mètres carrés, on est 13 pour le moment. Donc la majorité de nos clients sont en France, on fait ensuite 20 à 30% de notre chiffre d'affaires à l'export. Dans l'export il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, on fait aussi un peu en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et on a effectivement pas mal de demandes avec certains grands groupes en plus avec qui on travaille sur des pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques. Aujourd'hui, on n'est pas rentable, mais on est financé. On finance notre croissance avec des levées de fonds, pour le moment. Notre dernière levée de fonds en date, c'était en janvier 2016, avec Said Capital. On avait levé 600 000 euros. On touche le crédit un peu recherche, et on est JEI aussi, donc ça nous permet d'avoir des baisses de charges sur les salariés techniques.
Est-ce que vous diriez que c'est simple en France de créer une start-up qui fait de l'intelligence artificielle?
Technologiquement, aujourd'hui, en France, on est clairement aidé, hein, c'est sûr, entre la BPI, le CIR, le JEI. L'État, sur cette partie-là, technologique, en fait déjà beaucoup. Sur la partie commerciale, je pense que ce qui aide pas mal à commercialiser, c'est justement de démocratiser cet aspect innovation, de rendre les sociétés moins adverses à tester des nouvelles choses, etc. Et ça, avec l'écosystème qui grossit, je pense qu'on commence à y être. La preuve, c'est que nous, on fait du business avec de plus en plus de grosses sociétés. Donc finalement, pour elles, on est très nouveau, c'est assez risqué. Il y a beaucoup de conduite du changement à mener avec eux, parce que c'est quand même assez déroutant au début. Et finalement, ils y vont. Donc ça montre que ça évolue, quoi.
Bonjour.
Bienvenue au MEDEF. Olivier Midière, ambassadeur du numérique pour le MEDEF et conseiller de Pierre Gattaz à son cabinet. On est le deuxième hub après l'Angleterre aujourd'hui en matière en nombre de start-up dans l'intelligence artificielle, sur donc notre puissance de demain. Dans leur ensemble, on a à peu près 200 start-up aujourd'hui qui évoluent sur les différents champs de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans différents secteurs, puisque vous allez appliquer l'intelligence artificielle dans les domaines de la fintech, dans les domaines de la publicité, du marketing, dans tous les domaines. Et donc, on a des start-up qui se spécialisent par secteur.
François Hollande a annoncé qu'il allait les doter, en tout cas aider 10 startups à recevoir 300 millions d'euros. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est uniquement sur 10 startups qu'il faut faire l'effort?
C'est très bien de focusser les efforts sur un certain nombre de startups. Ça, c'est sûr. On ne peut pas saupoudrer. L'intelligence artificielle exigeant des temps longs dans la recherche, il est évident que focusser sur 10 entreprises avec qui on pourrait mettre des moyens beaucoup plus importants, je pense que c'est une bonne chose.
Parmi ses atouts, la France peut se vanter d'avoir un réseau dense de chercheurs, ils sont environ 5300, mais aussi de très bonnes formations. Il y a 18 masters d'intelligence artificielle. Nous sommes à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, dans un cours d'intelligence artificielle de licence 3.
Nicolas Maton, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de licence informatique. Alors quand j'ai commencé ma licence informatique, je voulais travailler dans les jeux vidéo bien sûr. Et donc dès le premier mois, je me suis renseigné sur les masters et j'ai vu le master UPMC. Parce que c'est dans ce master, il y a une formation un peu dans le jeu vidéo, mais c'est surtout l'intelligence artificielle de manière globale. Et je me dis peut-être que plus tard, si les jeux vidéo ne m'intéressent plus, eh bien pourquoi pas faire autre chose. Vu que c'est un secteur qui explose de plus en plus, comme là cette année par exemple, on a eu des problèmes d'administration parce que beaucoup de gens voulaient des places en IA et il n'y avait pas assez, donc il y a eu des refus. Donc d'année en année, ça augmente et donc il y aura beaucoup plus de travail, donc plus de salaire, je pense.
Nicolas Bredèche, je suis professeur des universités à l'université Pierre et Marie Curie. J'enseigne des matières qui sont liées à l'informatique. En particulier, j'enseigne des matières liées à l'intelligence artificielle, à la robotique autonome.
À quoi sont destinés les élèves que vous formez ?
Pour ceux qu'on forme plus spécifiquement au niveau du master, ils vont aller dans des entreprises qui ont besoin de méthodes d'algorithmes de haute technicité, qui sont donc liées à l'intelligence artificielle. Ça va à la fois toucher des domaines industriels, mais aussi des domaines académiques, dans le sens où un certain nombre de nos étudiants ensuite continuent pour faire un doctorat et peuvent devenir chercheurs, enseignants-chercheurs, ou à nouveau retourner vers le monde de l'entreprise. L'UPMC, c'est une grande université. C'est une université qui a beaucoup de laboratoires de recherche. Ces laboratoires de recherche sont adossés à des instituts de recherche comme le CNRS, comme l'INSERM. Clairement, c'est un atout pour la formation en France que d'avoir des enseignants-chercheurs qui enseignent des matières spécialisées. Ensuite, il n'est pas faux que, en termes de financement, ça pourrait être mieux, disons. Maintenant, il y a des efforts qui sont faits, mais peut-être pas du niveau de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, comme les États-Unis ou le Japon, ou même d'autres pays européens. Ce n'est pas une question facile, en tout cas.
Direction maintenant une autre start-up française, Cardiologs. Elle existe depuis 3 ans et a créé un logiciel d'assistance à l'interprétation d'électrocardiogrammes pour mieux dépister les pathologies cardiaques.
Jérémy Rapin, j'ai 30 ans. Je suis co-directeur de la R&D au sein de Cardiologs. Donc ici, on est dans les locaux de Cardiologs, dans l'école de médecine à Odéon. On a été les premiers à vouloir appliquer le deep learning sur les électrocardiogrammes. Au niveau partenariat, on travaille principalement pour l'instant avec les États-Unis parce que c'était plus simple au point de vue administratif. On adorait pouvoir travailler aussi avec des hôpitaux français, mais pour l'instant, c'est difficile de monter un partenariat. Vu qu'il y a énormément de contraintes et pas forcément toujours très claires, la protection des données en France, au final, c'est peut-être moins clair que ce qu'il y a aux États-Unis, qui est strict, mais bien défini.
La législation en France, elle est trop stricte.
C'est important de protéger les patients. Peut-être clarifier vraiment qu'est-ce que l'on fait et avec quoi, ce sera plus pratique.
Le rapport Francia entend donner à la France tous les outils pour prendre la première place, mais pour Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo et entrepreneur, nous sommes très loin du compte.
Les Français peuvent constater que la France n'existe pas en matière d'intelligence artificielle. Elle a des chercheurs en intelligence artificielle, elle a des centres de recherche en intelligence artificielle, mais elle ne produit pas d'intelligence artificielle. Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Les leaders de l'intelligence artificielle sont tous américains ou chinois. Il n'y a aucun européen, il n'y a aucun français.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire suite à ce rapport? On sait que François Hollande a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard sur 10 ans. C'est suffisant?
C'est totalement insuffisant. Aujourd'hui, on ne parle pas en millions en matière d'intelligence artificielle. On parle en centaines de milliards. Google, Apple, les géants chinois, ça vaut entre 200 et puis 800 milliards. Quand on parle d'un fonds de quelques dizaines de millions d'euros par an dont on n'a pas vu la couleur et qui peut-être n'auront pas lieu à cause de la présidentielle, on ment aux gens. Nous avons besoin des produits d'intelligence artificielle qui sont fabriqués là-bas, mais nous n'en fabriquons pas. Et si on nous coupait l'intelligence artificielle venant de Californie, on serait complètement perdu. Sans Gmail, sans votre iTunes, sans votre boutique Amazon, nous sommes totalement dépendants. Et c'est dramatique pour l'avenir industriel de notre continent.
Christophe Sirug, je suis secrétaire d'État chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation. Sur l'intelligence artificielle, le président de la République a fixé 1,5 milliard sur 10 ans. C'est ça l'ambition qui est la nôtre, c'est-à-dire une montée en puissance qui est importante, parce que nous considérons que c'est une réponse à l'interpellation qui a été faite par celles et ceux qui ont travaillé sur ces enjeux de l'intelligence artificielle, et que c'est un projet à ce point important qu'il nécessite cette mobilisation-là. Je pense que la France, par elle-même, avec plus de 5000 chercheurs, elle est en capacité de développer sa propre vision de l'intelligence artificielle. Quand je regarde les filières, les secteurs sur lesquels déjà cette réflexion est enclenchée, engagée, je ne suis pas sûr qu'il faille se positionner tant par rapport aux États-Unis comme si finalement nous devions être dans une relation de soumission. Moi, ma conviction, c'est qu'on est en capacité de tenir un rôle de leader. Alors nous n'avons pas de prétention qui serait, j'allais dire, complètement décalée, mais nous avons une ambition et c'est celle-ci qu'on veut porter.
Intelligence artificielle, la France est-elle un champion naturel? C'était le reportage de Milena Payon.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Marion Lourd.